Ça va ? Bon allez, on y va. C'est le numéro 0. Tiens, je n'ai pas donné de nom encore à cette émission. Je vais faire simple. Je vais l'appeler « Autour de Franck Lomvé ». Autour de sa pensée. Qui il est ? Ce que nous préparons ensemble. Pourquoi on le fait ? Comment y participer quand c'est possible ? Mais attendez, à qui je parle ? Je sais à qui je veux parler. Je m'adresse à celles et à ceux qui s'intéressent à la pensée de Franck et à sa mise en pratique. Si vous connaissez peu Franck, alors commencer par cette série d'émissions est une bonne idée. Vous allez pouvoir aller à l'essentiel et déterminer s'il y a quelque chose à prendre pour vous dans ce que nous proposons. Je m'appelle Arnaud. Il y a quelques années, je me suis mis dans la tête que la pensée de Franck était d'intérêt public. Et j'ai décidé de l'aider à la structurer et à la faire connaître au plus grand nombre. Et quand je dis au plus grand nombre, c'est vraiment au-delà de nos frontières. En écrivant la nouvelle version du site de Franck, je me suis dit, et si je réalisais un petit programme audio d'introduction à Franck, sa pensée et à sa mise en pratique? Et si je vous faisais écouter ce que je n'ai pas prévu diffuser, comme des passages de nos discussions préparatoires ou des extraits de nouveaux programmes avant diffusion sur YouTube? Il faut savoir que j'enregistre tout. Alors, qu'est-ce que tu connais de Franck, dis-moi?
Ça enregistre déjà?
Ouais, ça enregistre déjà.
Bon, de toute façon, il enregistre tout le temps, c'est un renard des sables, lui.
Ça, par exemple, je l'ai enregistré il y a 10 jours, au studio à Paris. Franck avait fait l'aller-retour d'Ardèche pour tester une série de programmes gratuits. En l'occurrence, il s'agissait là d'une rencontre de Franck avec des jeunes. Je voulais voir comment Franck formulerait ses idées à des jeunes de 20-25 ans. C'était intéressant d'ailleurs parce qu'il leur parlait comme à son fils. Je vais diffuser prochainement les 2 épisodes. Bref, là, je vais vous partager des audios que je n'ai pas encore diffusés pour 2 d'entre eux. Le premier dure 3 minutes. Il pourrait répondre avec légèreté à la question « Mais Franck, comment ça marche la vie ?»
Vous m'avez peut-être déjà entendu parler du gars qui voulait monter une baraque à frites sur le port de Marseille, ça vous dit quelque chose? Le gars, il est dans son canapé, comme ça, en train de fumer des joints, tu vois, puis en train de réfléchir avec son projet, qu'est-ce qu'il voudrait faire de sa vie. Puis, ce serait bien quand même que je monte une baraque à frites sur le port de Marseille. Ça, c'est cool. La patate, ça coûte tant. La barquette, machin, putain, je vais encaisser, puis un max de monde. Je vais monter une baraque à frites sur le port de Marseille. Puis le gars continue de réfléchir, puis il se dit, ouais, en même temps, Marseille, il fait 40 degrés la moitié de l'année. Est-ce que les frites, c'est vraiment ça l'idée? Ah, puis il y a McDo aussi qui est là sur le vieux port. Donc des frites, il y en a déjà. Laisse tomber. Puis il ne s'est rien passé. Puis, autre version. C'est le gars qui est là dans son canapé, qui se dit, ah, ce serait bien que je fasse une baraque à frites sur le port de Marseille. Ah oui, ça c'est une bonne idée. Et hop, il lève son cul. Et là, il bouge et il va à la chambre de commerce et d'industrie parce qu'il se dit, allez, je vais monter une baraque à frites sur le port de Marseille. Et là, il est en train d'attendre dans la file d'attente et puis il tombe sur un gars qui est à côté. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, c'est parce que je vais monter une baraque à frites sur le port de Marseille. Ah bon? Le gars à côté, il dit, ah, c'est marrant que vous disiez ça parce que moi, je suis sur un truc un peu pareil, mais je suis tombé sur une formation où on nous forme à faire des crêpes. Là, moi, je monte une crêperie. Et du coup, je pars la semaine prochaine à Brest. Et alors là, on cartonne parce que sur les marchés de Noël, les crêpes, mais alors là, mais c'est ahurissant ce qu'on rentre comme pognon. Et en fait, il n'y en a pas du tout, je me suis renseigné. Les gars, putain, mais c'est quand même pas mal ton truc. Il dit, mais viens, putain, cette formation, elle est top. Et le gars, en fait, se retrouve, hop, il est parti pour le Saint-Brieuc, où il va faire sa formation de crêpes. Alors, donc, il est parti pour sa formation, et dans le train, il est là, il part pour Saint-Brieuc, et il y a une nana qui l'a, il la trouve un peu sympatoche, et il commence de parler, et il lui dit, ah ben moi, je vais faire une formation en crêperie, là, machin, etc. Ah bon, machin, tu fais ça où? Ben, je fais ça, mais et tu crèches où? Ben là, je vais descendre à l'hôtel, machin, etc. Et elle lui dit, ah ben, si tu veux, il y a une fête chez moi, j'habite justement la baie, je fais une fête demain soir, machin, si tu veux, tu peux te pointer. Le gars, il dit, oh, bah, ça va, j'ai rien à faire, de toute façon, mon truc, il démarre lundi, c'est le week-end, pourquoi pas? Et il débarque à la fête, et puis voilà, on boit un coup, puis on boit un deuxième coup, puis finalement, il y a la famille de cette meuf qui est là, et puis il rencontre la cousine qui, tiens, ils ont un petit crush, puis il commence de vivre un truc avec la cousine, puis alors finalement, tout ça, il pouvait pas le voir depuis son canapé. Et c'est comme ça que ça se fait une vie. Parce qu'en fait, si tu crois, depuis ton siège, pouvoir regarder l'avenir et dire « ça, c'est une bonne piste, ça, c'est une mauvaise piste », tu plantes. Tu te lèves, tu bouges, et les pistes apparaîtront. Parce qu'en fait, quand on est sur son canapé, on réfléchit avec son intelligence. Lorsqu'on se lève de son canapé, on se met en contact avec l'intelligence du vivant. opportunité, rencontre, surprise, hasard. Et l'intelligence du vivant, c'est autre chose que la nôtre.
Les deux autres sont deux moments où Franck raconte un bout de son enfance qui explique en partie cette capacité de lire à travers nous avec tant de facilité. L'un date de 2017, tiré d'un programme appelé Le Processus, et l'autre date de 2022, tiré de 6 heures d'entretien que je n'ai pas encore diffusé.
Je suis un complexe d'infériorité ambulant qui a basculé en complexe de supériorité. Tu sais, c'est les deux faces de la même pièce. Tu vois le genre ? Quand j'avais 14 ans, on m'a mis à l'internat. Tu vois, et je me suis pointé dans un internat avec des mecs qui avaient 16, 17, 18, 19 ans. Tu vois. Et moi, j'avais 14 ans. Quand je suis arrivé dans le truc, moi, j'avais encore un zizi. Eux, ils avaient une bite. Et pendant un an, j'ai flippé tous les jours qu'on vienne me choper dans mon lit parce qu'ils arrêtaient pas de faire des conneries avec les plus jeunes du truc. Alors le soir, quand je me couchais, je démontais la tringle à rideau de ma petite penderie. Et je dormais avec une barre de fer. Ça a duré pendant un an. Pendant un an, je dormais avec une barre de fer contre moi. L'année d'après, j'ai redoublé cette année-là. Parce que de toute façon, j'étais focalisé sur un truc, c'était pour moi survivre. Et l'année d'après, j'ai découvert que avec une langue un peu acérée, un peu de cynisme, un peu d'ironie, au bon endroit, c'était plus puissant que la barre de fer. Et là, en fait, j'ai pris toute la classe et je les ai ridiculisés devant tout le reste de la classe et toute l'année. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avec ma langue, j'avais bien plus de pouvoir qu'avec mes muscles. Et c'est là, en fait, que ça... C'est comme ça, finalement, que j'ai commencé de voir que je pouvais voir comment fonctionnait l'autre en face et comment je pouvais toucher et l'endroit où il fallait appuyer pour que l'autre se démonte, si tu veux. Et donc, ça a commencé sur ce truc-là. Mais c'est resté, là je peux te l'expliquer aujourd'hui parce que je peux regarder mon parcours, mais à l'époque c'était juste comment survivre à tout ça, tu vois, quand tu te sens pris dans la vie, hein, tu vois ce que je veux dire. Et puis donc après, bah, ce talent, je l'ai utilisé pour faire du business, puisque c'est toujours le même truc. Quand tu vois ce que l'autre veut entendre ou pas entendre, bah, tu sais exactement comment l'attraper pour lui vendre un truc ou pas, tu vois. Et puis j'ai fini par écouter les gens autour de moi qui n'arrêtaient pas de me dire « tu devrais ». Et puis il y a 7-8 ans de ça maintenant, je me suis lancé, j'ai fait mes premiers stages, alors j'ai réuni un groupe, et puis voilà, on a blablaté, et puis c'est devenu ça, et puis aujourd'hui voilà, on en est là. Quoi.
Il y a un truc en fait que je voudrais dire, mais qui est si subtil, qui est pas facile, si tu veux, c'est que j'essaie de faire comprendre que lorsque tu vis une émotion douloureuse, il est légitime que tu te mettes à développer des stratégies de défense. C'est normal, tu vois. Ça se tient. Par exemple, gamin, dans une cour d'école, tu fais partie de ceux qui en prennent plein la gueule. Tu vois, tu fais pas partie des enfants populaires de l'école, et c'est douloureux. Donc, t'établis des stratégies. Ces stratégies de défense, elles sont judicieuses, elles sont parfaitement judicieuses à un certain moment de ta vie. Si tu continues de les pratiquer lorsqu'il n'y a plus d'attaque, c'est toi l'agresseur. Et c'est hyper important de capter ce truc-là, mais c'est subtil à comprendre. Si, imagine en fait que je communique avec toi, je suis en train de parler avec toi, je te connais pas, t'arrives, tu commences de me parler, de me dire « bonjour, asseyez-vous, parlez-moi de vous, etc. » et que juste en préambule, je te dis « oui, mais allez-y doucement, hein, allez-y doucement parce que... allez-y doucement parce que moi j'ai déjà... alors j'ai pas envie que vous me... hein, alors je suis déjà en train de faire de toi un salaud potentiel. On en est là. Je suis déjà en train de faire de toi quelqu'un qui, a priori, pourrait chercher à me faire du mal. À me protéger de toi alors que t'es pas en train de m'attaquer, je suis déjà en train de te placer dans une posture d'agresseur. Et mettre les gens dans des postures d'agresseur lorsqu'ils n'ont pas agressé, c'est agressif. Se défendre des gens qui n'ont rien produit, c'est agressif. Avoir un système de défense hyper alambiqué, hyper sur le vif comme ça, parce que attention, moi, faut pas me, c'est hyper agressif. En fait, les gens ne s'en rendent pas forcément compte. Mais si tu passes ton temps à te protéger de ce que les autres sont en train de te faire ou pourraient te faire, alors qu'il ne se passe rien, c'est toi l'agresseur. C'est hyper agressif de mettre les gens dans des postures de bourreau a priori avant même qu'ils aient ouvert la bouche. Et c'est ça le truc subtil qui reste souvent invisible aux yeux des gens, c'est que leur système de défense, il est légitime quand ils avaient 8 ans dans une cour d'école. Est-ce que c'est encore légitime dans un monde d'adultes où, en fait, personne va te lancer des cailloux et te voler ton goûter? Et si ton émotionnel, il n'est pas traité, eh ben, en fait, tu vas continuer d'agir avec les gens comme ça. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi ils continuent de t'agresser. Mais ils ne continuent pas de t'agresser. Tu viens de les mettre à une place de bourreau. Tu vas être étonné de pourquoi ils continuent de t'agresser. Mais ils ne continuent pas de t'agresser. C'est toi, en fait, qui, les plaçant dans une posture de bourreau, va leur demander de te recaler. Et là, tu vas te sentir agressé. C'est des mécanismes rampants, quasiment invisibles, mais il faut bien comprendre ce truc-là. Si tu veux, par exemple, moi, quand j'étais gamin, je me suis retrouvé à l'internat, à un moment. Et il y avait une sale ambiance, c'était vraiment... j'étais vraiment flippé, et j'ai développé une stratégie de protection qui consistait à développer, si tu veux, une forme d'humour parfaitement cynique, ironique, de ces humours, en fait, qui sont juste là pour faire mal, pour abîmer, pour faire peur. Ça consiste à révéler la faille chez l'autre dans un groupe, tu vois. Et les gens se sont mis à faire attention avec moi parce qu'ils savaient que j'allais pouvoir toucher à l'endroit où ça fait mal, et, etc. Donc la stratégie a fonctionné, elle m'a servi. Je me suis donc retrouvé protégé par les grands qui préféraient m'avoir de leur côté que pas. Et cette stratégie a parfaitement fonctionné. Mais moi, j'ai gardé cette stratégie. Et ça a fait de moi un con pendant des années. Mais un con, c'est-à-dire un gars qui ne se rend pas compte qu'il mettait les blessures des gens en scène, qu'il allait toucher toujours à l'endroit où ça faisait le plus mal, qu'il était... En fait, c'était... Lorsque il n'y avait plus de menaces et que je continuais d'utiliser ce système de défense, bah, j'étais un agresseur, tout bêtement. Et c'est pas évident de se rendre compte parce que au début, en fait, quand tu utilises une technique de défense, elle est légitime, elle est nécessaire. Et il est bon, en fait, à un moment donné, de se demander si les bourreaux sont toujours là pour justifier nos attitudes. Et la plupart du temps, tu sais quoi, les bourreaux sont toujours là, non pas parce qu'ils sont là physiquement, mais ils sont là parce que les émotions ne sont pas traitées. Donc, comme l'émotion n'est pas traitée, que le truc n'est toujours pas vécu et qu'on a toujours besoin de notre coupable, mais en fait, on continue d'agir, de développer des stratégies de défense alors qu'il n'y a plus le moindre danger. Et c'est là que c'est nous qui devenons l'agresseur et c'est totalement invisible à nos yeux. C'est ce que je voulais dire par l'exemple de cette personne qui se fait harceler au boulot mais qui ne s'est pas rendu compte que pendant des années, c'était elle qui était en train de les harceler avec son système de défense super alambiqué face à des gens qui ne lui voulaient absolument ni bien ni mal.
Encore quelques informations pour compléter ce numéro 0. Mon but est d'introduire, vous l'avez compris, à la pensée de Franck. C'est aussi de vous donner la parole, ce que je fais dans l'épisode suivant. En ce moment, je prépare des programmes gratuits qui vous donneront la possibilité de réagir et de me poser des questions que je pourrais éventuellement adressé à Franck lors des enregistrements suivants. Ça se passera sur Guilded, notre plateforme sociale, mais je vous en dirai davantage plus tard. Dans tous les cas, le meilleur moyen de rester informé sur nos projets en cours, sur les sorties de programmes gratuits comme payants, c'est la newsletter. Vous pouvez vous inscrire sur le site de Franck ou sur le carnet de bord. Pour le moment, et pour terminer ce numéro 0, je vous invite à une immersion sensorielle, un petit voyage dans l'ambiance sonore de Berlin, histoire de changer nos repères. Dans le prochain épisode, nous aborderons la question des effets lobvés. En quoi Franck pourrait-il changer votre vie ?
Was hast du da gepflückt?
Ja, Einzelquartal. Das hier, wieso sind die alle?
Ja, weil die jedes Mal ein bisschen kalt.
Da müssen wir noch
stemmen. Dann müssen die anders aus dem Rest bringen, wenn die anders aus dem Übern sind.
Warten wir mal. Wieso müssen wir ja die Front für die Karte?
Thank you.